Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'Afrique australe, c'est le choc de la rencontre avec les paysages vertigineux sans clôture où la propriété privée n'existe pas dans certaines régions. C'est aussi pour Félix la découverte d'une culture plurielle, de populations dures mais attachantes et d'une faune prodigieuse. Lors de sa première venue en Namibie, il s'y sent étrangement comme chez lui, comme s'il revenait sur sa terre alors qu'il ne l'a jamais connue. Dans cette première partie de l'émission, Félix nous raconte son arrivée sur sa terre promise. L'émission s'appelle Regarde ailleurs, donc l'idée c'est vraiment de donner la parole à des voyageurs, des écrivains, des expatriés, dans cette idée d'élargir sa vision sur soi et sa vision du monde. Là, je me retrouve en Namibie, dans la ville de Windhoek, la capitale, en présence de Félix. Félix, voilà. Donc toi, je sais que tu es ici depuis quelques années. J'ai entendu parler de toi par une Française qui m'a dit « Tiens, regarde TF1, il y a un documentaire sympa sur un gars qui attrape des serpents. » Je suis allé voir ça et tiens, pourquoi pas prendre contact avec toi, te rencontrer. Je découvre un personnage multifacette qui s'occupe de projets ici d'ONG, mais qui a aussi toute une vie personnelle et familiale à Windhoek. Donc je vais m'intéresser à toi, à ton histoire. Donc peut-être on va revenir au tout début. Qu'est-ce qui a fait que tu aies envie de quitter la France et pourquoi l'Afrique, pourquoi la Namibie? Donc raconte-nous un peu ton univers et ton parcours.
Bonjour Alexandre et merci pour ton intérêt. Eh bien moi, la Namibie, ça a commencé en 2004. Donc ça fait plus de 16 ans maintenant. C'était pas un pari intérieur, mais c'était un besoin d'aller voir un endroit sur lequel je n'avais aucune idée reçue et pour lequel je n'avais jamais rien entendu, et vraiment ouvrir une page neutre et blanche, parce que j'ai eu la chance avant ça, avant mes 24 ans, de voyager à mon échelle, mais quand même sur les 5 continents, donc d'avoir un peu une idée de ce que le monde avait à proposer en termes de diversité et de différentes cultures. Mais j'en avais un peu marre d'être avec un sac à dos où finalement je trouvais qu'on se retrouvait souvent dans des backpackers avec d'autres gens comme toi. C'était le début des cafés internet, et puis finalement tu passais ton temps avec des gens qui mangeaient des pizzas et qui étaient sur Facebook et qui racontaient leur voyage. Et c'est vrai que pour moi c'était un peu une limite, parce que je voulais me rendre plus compte des réalités locales et être plus immergé dans mes voyages. Et donc en 2004 j'ai fini mes études à Lyon et je devais trouver un stage pour finir ce cursus scolaire. Et donc j'ai cherché un pays qui m'était complètement inconnu et où personne n'avait jamais été, que je connaissais du moins. Et je cherchais en Afrique australe, autant au Zimbabwe qu'au Botswana, et j'ai trouvé une annonce sur Internet pour faire un chauffeur francophone à l'aéroport pour accueillir les touristes. Et j'ai pris un aller simple. À l'époque, ça m'a coûté 300 euros, je crois. En voulant travailler sur place, en me disant pas que mon voyage avait une fin, et voilà, sur un pays qui était vierge pour moi.
Mais il y avait un statut particulier, c'était une offre d'emploi que tu as trouvé comment? Est-ce que c'était du VI, du VSI, ou non, simplement une offre d'emploi, tu t'es dit j'y vais et je tente?
Non, simplement une offre d'emploi d'une petite compagnie locale, et pareil, qui n'avait pas de fin, je crois. Et voilà, je me suis dit j'y vais. Il n'y avait pas du tout de conditions particulières. C'était pas un statut d'expatrié. J'étais pas payé en euros. C'était un salaire local. Je crois à l'époque ça équivalait à 150 euros par mois. Et voilà. Donc je suis parti. Je suis arrivé ici. Et c'est vrai que dès la route de l'aéroport, j'ai une sensation très étrange de. J'irai pas jusqu'à la plénitude. Ça c'est venu après. Mais l'impression de pour un pays que je ne connaissais pas du tout, finalement, de revenir chez moi. Il faut savoir aussi que dans ma famille, je suis la première génération à naître en France métropolitaine. Toute ma famille, qu'elle soit maternelle ou paternelle, ce sont des pieds noirs, des Français d'Algérie française à l'époque, qui sont rentrés en France après la guerre, qui sont pas nés en Algérie française. Et j'ai toujours entendu dans ma famille, la France, c'est pas chez nous, on vient d'un autre continent, c'est pas notre culture, vraiment des vrais déracinés, quoi. Et je pense que ça a aidé dans mon esprit de me dire que moi, j'étais pas attaché non plus à la France particulièrement. Peut-être qu'inconsciemment, il y a eu un retour en Afrique, je sais pas. Mais en tout cas, en arrivant en Afrique australe, ça m'a fait vraiment découvrir un sentiment que j'avais pas connu avant. Et c'est vrai que durant mes voyages, je trouve qu'il y a un peu toujours trois piliers. J'aime beaucoup le chiffre 3. J'ai fait beaucoup de choses autour du chiffre 3. Et c'est vrai que ce soit pour les paysages, que ce soit pour la faune sauvage, que ce soit pour les cultures, pour moi, c'est un trépied, puisque je trouve que l'équilibre se forme à partir de trois branches. Et en Haïbi, j'ai trouvé les trois. Des paysages incroyables, des grands espaces, un côté multiculturel incroyable et des animaux sauvages. Qu'on peut voir assez facilement. J'ai toujours pensé que j'étais né trop tard pour voir des grandes étendues sauvages avec beaucoup d'animaux. J'ai grandi en lisant, adolescent, des récits d'explorateurs en Afrique, la découverte de la province du Cap, les premiers trekkers et tout ça. Et je me suis dit, tout ça, c'est passé, c'est fini. Maintenant, les animaux sont tous dans des parcs ou dans des cages. L'aménagement du territoire a été fait partout. Et en fait, en Haïbi, non, c'est pas le cas. Donc ça m'a énormément plu. Et j'ai pu vraiment plus vivre pleinement et plus me réaliser.
C'est cette Afrique-là que tu recherchais ? Ça aurait pu être l'Asie ou c'était vraiment l'Afrique que tu ciblais dans ton expatriation ?
C'est vrai que je ciblais plus l'Afrique, je pense inconsciemment, mais j'avais fait un grand voyage en vélo quelques années auparavant, d'ailleurs en vélo triplette, trois places, encore une fois le chiffre sur trois, et jusqu'en Afrique de l'Ouest, de Notre-Dame de Paris jusqu'à Dakar au Sénégal. Et c'est vrai que pour le continent, même si c'est très différent, le continent africain, on ne peut pas comparer l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique australe, tout comme pas comparer la Suède et l'Espagne, c'est quand même très différent. Mais c'est vrai que j'ai eu une attirance là-dessus assez forte et puis je me suis mieux senti qu'ailleurs. J'ai eu la chance de voyager en Amérique latine, en Asie, en Polynésie, mais là, il y avait quelque chose en plus. Je ne pourrais pas mettre le doigt dessus, mais en tout cas, je l'ai bien senti.
Donc tu arrives avec ton billet aller simple à l'aéroport de Windhoek et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut tout créer, trouver son logement, trouver aussi le statut qui va te permettre de rester ici plus que les 90 jours légaux quand tu arrives.
Oui, alors à l'époque c'était plus facile qu'aujourd'hui pour avoir des permis de séjour, ce qu'on appelait des work visa quand tu venais travailler, mais c'est vrai que pendant presque 10 ans je renouvelais des work visa de 3 à 6 mois. Et là, il y a 2 ans, j'ai enfin eu ma résidence permanente. Entre les work visa et la résidence permanente, j'ai eu des work permits de 2 ans. Donc, il y a eu un peu d'administratif. Et puis, moi, j'adore démarrer les choses à zéro, en fait. J'adore découvrir, construire quelque chose en partant d'une page blanche. Donc, effectivement, j'ai commencé à pied, puis après en vélo. Et puis après, j'ai trouvé un minibus. Et j'ai logé dans un ranch équestre, dans un centre équestre. Il y a beaucoup de chevaux un peu dans le bush, dans la brousse. Donc, ça m'a beaucoup plu. J'ai vu mes premiers animaux sauvages. Et petit à petit, j'ai monté ma vie ici. Je suis venu avec une amie qui, elle, ça lui a moins plu. Elle est repartie. Et moi, je suis resté parce que ça m'a apporté énormément. Et puis, j'ai travaillé, on va dire, 5-6 ans dans ce cadre de tourisme-là pour découvrir le pays. D'abord au bureau, à l'aéroport. Ensuite, comme guide sur le terrain. Et quand je suis tellement tombé amoureux des ressources naturelles du pays que je trouvais que le tourisme à l'époque, du moins celui que je faisais, était de moins en moins en accord avec ce que je pensais sur l'environnement. Je trouvais qu'il prenait plus que ce qu'il ne rendait, que ce qu'il protégeait. Et donc, c'est vrai que les safaris et les circuits qu'on me proposait me plaisaient de moins en moins, mais m'épanouissaient moins, mais j'avais rien de mieux à proposer.
Je veux bien que tu développes cet aspect-là du tourisme qui te plaisait peu ou pas.
Bah, c'est vrai que c'était vraiment de la consommation d'expériences assez personnelles pour les gens, sans forcément du tout penser à échanger, à prendre le temps de s'intéresser aux gens locaux, à leur impact locaux, autant qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Et puis c'était la consommation où il fallait faire 3000 km en 2 semaines, voir le maximum de choses pour le moins cher possible, un peu comme on fait ses courses. Tu vas dans un supermarché, tu veux y rester le moins de temps possible, acheter le maximum de trucs pour le moins cher possible. Et ça, c'est vrai qu'au final, je trouvais que c'était pas du gagnant-gagnant et c'était pas forcément épanouissant, ni pour les gens qui le faisaient, si ce n'est pour faire la soirée diapo en rentrant avec Simone à la compta, que pour les gens locaux où finalement les gens passent, ils prennent des photos. Je travaille avec des communautés Himba, ils disent « nous, on connaît pas les gens, on connaît que leur objectif d'appareil photo ». Parce que c'est vrai que c'est ça qu'ils mettent entre eux. Ils prennent pas forcément le temps. Et donc, j'ai vu l'impact négatif aussi des passages de voitures, du stress sur les animaux, des traces de hors-piste. Et c'est vrai que ça me plaisait de moins en moins. Alors attention, il y a aussi des bons côtés. Je jette pas tout à la poubelle, bien sûr, parce que ça rapporte des devises dans le pays, ça fait marcher l'économie. Mais voilà, je m'y retrouvais de moins en moins. Et comme j'étais encore un peu jeune et j'avais pas des idées très précises sur comment changer tout ça, ben, j'ai préféré partir. Donc je suis parti un peu en prospection à l'étranger pour découvrir d'autres choses, d'autres pays. Je suis parti en Bolivie, je suis parti en Tanzanie. Mais je suis rentré à Lyon, en France, aussi quelques mois. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas bien, quoi, que ça me manquait. J'y pensais beaucoup et j'avais perdu ce sentiment un peu de bien-être que j'avais en Namibie par rapport à mon travail, mais par rapport au pays. Et donc, je dis, ma seule solution, c'est de rentrer et de construire quelque chose qui me correspond mieux. Et là, quand on se met dans cet état d'esprit-là, je trouve qu'on fait des rencontres, qu'on est ouvert au changement, on rencontre des gens qui t'inspirent et qui t'aident à faire ton petit chemin. Là, pour moi, ça a été deux personnes particulièrement, notamment un chercheur sur les lions du désert qui s'appelle le docteur Philippe Stender, qui vit dans sa voiture, qui s'est complètement engagé jour et nuit au suivi, à l'étude, à la protection de cette population de lions vraiment unique au monde, vu qu'elle est hors parc national. Elle fréquente la plage. Donc, un lion sur la plage, c'est comme ça que se termine d'ailleurs le roman d'Hemingway, Un vieil homme, le vieux homme et la mer. Il n'y a rien de plus fantasmagorique, de plus inspirant pour moi. Ça m'a vraiment touché. Et il m'a aussi appris l'engagement total, vraiment se consacrer à ses idées, quel que soit le prix à payer, parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Alors, il y a un côté ayatollah, mais quand c'est quelque chose lié à la protection de la biodiversité, ben, c'est plutôt positif. Et j'ai aussi rencontré un vieux monsieur qui est malheureusement décédé il y a un an, qui s'appelle Garth Owen Smith, qui était un Sud-Africain et qui a été le premier Africain blanc à faire confiance aux locaux, aux indigènes africains, pour la gestion de leur environnement. C'est vrai qu'en Afrique australe, je peux parler que de ce que je connais, mais il me semble aussi dans d'autres endroits, souvent il y a une vision un peu carte postale de l'Éden africain, qui est assez occidentale finalement, et on laisse assez peu la parole et la place aux locaux qui en fait cohabitent avec la vie sauvage, tant bien que mal. Ça va avec beaucoup de challenges. Et cette personne-là, en période d'apartheid, a réussi à convaincre le gouvernement que la faune sauvage qui leur posait problème tous les jours, elle serait mieux protégée par eux s'ils en bénéficiaient directement, s'ils étaient impliqués, s'il y avait une responsabilisation, et non pas des gens dans des bureaux dans la capitale qui leur disaient quoi faire avec les animaux qui cohabitent dans leur jardin. C'est pas un hasard si en France on a tout décimé en faune sauvage, mais je dis tout, il y a un certain retour aujourd'hui, mais en tout cas on s'est rendu compte que c'est assez embêtant d'avoir un éléphant ou un lion dans son jardin. Et en Namibie, ça arrive encore. Et donc déjà je me suis dit, c'est vrai que ces locaux-là, on leur donne pas assez d'attention, et je trouve que si on aime les animaux sauvages, il faut passer par les gens qui vivent avec. Pour les protéger et les soutenir. Donc petit à petit, grâce à ces deux inspirations-là, mais aussi à deux gens que j'ai rencontrés, j'ai d'abord décidé de créer une association qui s'appelle Tosco, qui soulève des fonds au sein de l'industrie touristique, mais aussi qui fait du développement de sensibilisation pour soutenir différents programmes de conservation de l'environnement. Et puis, un an plus tard, comme j'en vivais pas très bien, c'était le début, j'ai créé une compagnie touristique qui s'appelle Eco Safari, qui fait des tours qui sont des safaris qui sont plus en accord avec tout ça et qui finance Tosco en fait. L'un se nourrit de l'autre. C'est un peu un dragon à deux têtes. Et là, je me suis trouvé beaucoup plus mieux en accord avec mes idées. J'ai rencontré ma compagne, on a eu deux enfants ensemble. Et là, ça a ouvert énormément de portes pour moi. Et du coup, j'ai pu m'impliquer aussi dans la protection de reptiles à Windhoek. J'ai une certaine affinité avec les animaux qui sont mal aimés. J'ai une certaine compassion même pour eux, que ce soit les hyènes, les reptiles, les serpents. Et je suis aussi accro à ce que j'appelle l'adrénaline utile. C'est-à-dire se créer des sensations fortes qui font qu'on se sente vivant, tout en faisant quelque chose d'utile pour l'environnement et pour les autres.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc t'es arrivé, t'as commencé à bosser dans le secteur du tourisme jusqu'à ce que tu crées ta propre agence et ta propre ONG, donc Tosco. Tu disais que c'était cette idée de s'approprier le vivant en fait pour apprendre à l'aimer et le voir quelque part comme une richesse, comme une ressource.
Oui, effectivement, le vivant, loin de cette carte postale un peu occidentale qu'on a de l'Afrique ou des grands pays sauvages où on a l'impression, c'est une vision un petit peu édénique des choses, où ça a toujours été comme ça, où les peuples qu'on dit premiers ont toujours habité en harmonie avec la nature et le monde d'aujourd'hui, maintenant, est en contradiction avec ça. En fait, j'ai découvert sur place que c'était pas vraiment comme ça. Il y a toujours eu une bataille entre l'Homo sapiens et le reste de son environnement. Pour s'installer, pour vivre mieux. Et j'ai vu, en fait, j'ai compris, hein, c'est une évidence maintenant, mais que tout était lié et qu'en fait, on faisait partie de l'environnement au même titre que d'autres espèces animales et qu'il fallait apprendre à cohabiter plutôt qu'à être en suprématie et, ou plutôt qu'à séparer les choses. Les parcs nationaux, c'est bien, mais ça reste vase clos. L'homme y a été exclu. Moi, je suis intimement convaincu que l'homme a sa place dans la nature et qu'on ne devrait pas faire des villes et des parcs. Par contre, ça vient avec un nombre de challenges quotidiens, mais on vit dans un monde bien ou mal, en tout cas dans un monde capitaliste, et il faut financer les coûts de cohabitation avec la faune sauvage, et pour ça, eh bien, il faut passer par des levées de fonds, par une activité économique comme le tourisme, pour essayer de rétablir un peu la balance. J'aime bien penser à l'écologie, non pas comme la protection coûte que coûte de certaines espèces, mais surtout pour établir un équilibre entre les espèces, où chacun trouverait une certaine place. Ni tout pour l'homme, ni tout pour les autres espèces mammifères ou animales que l'homme, mais plutôt un partage, un équilibre avec des concessions à faire des deux côtés.
Mais cette cohabitation entre l'homme et l'animal est quelque chose de très présent ici en Namibie-Bénin. À quel moment est-ce qu'on a commencé à faire un tournant et à séparer les deux, à cliver le côté animal et humain ?
Bien, je pense que c'est lié à la capacité cérébrale de l'Homo sapiens, de l'homme, à vouloir tout contrôler, à avoir la technicité pour le faire. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, ça a un coût de cohabiter avec la faune sauvage, un stress sur sa personne par rapport à sa propre sécurité, parce qu'on parle de rhinocéros, d'éléphants, de lions, de léopards. C'est un pays d'éleveurs en Namibie, donc rien ne pousse, donc c'est des éleveurs qui vivent avec leurs troupeaux de chèvres, de vaches, donc il y a de la prédation aussi là-dessus, et donc je pense que la première réaction quand il y a un stress sur ta personne ou sur ta propriété, c'est la défense, et c'est le clivage pour dire moi je veux éliminer le plus possible tous ces risques-là. Et en les éliminant, du coup, ben, ça fait des frontières, on parque un peu les gens et les animaux. Et aujourd'hui, il y a une énorme prise de conscience mondiale. Ça, c'est quand même une bonne chose dans l'évolution, c'est qu'on se rend compte que tout est lié et qu'on fait partie de l'environnement au même titre que d'autres animaux et qu'en fait, casser ces liens, finalement, ça se retournera contre nous plus tard.
Quel est le lien aujourd'hui avec les Namibiens et leur environnement ? Je crois que tu avais fait un cahier, tu nous expliquais qu'il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu de girafe ou qui n'avaient jamais vu d'éléphant alors qu'ils vivent ici en Afrique, en Namibie.
Oui, effectivement, bah avec ces histoires de ville et de couper la nature qui des fois peut être un coup, même les Namibiens, effectivement, ceux qui vivent en ville n'ont pas forcément été liés à l'environnement, ou alors quand ils l'ont été, c'était de manière négative. Et donc c'était vachement important, surtout pour les nouvelles générations, de recréer ce lien et surtout de donner aux gens qui s'approprient leurs propres ressources naturelles et que c'est pas un blanc-bec venu d'un pays étranger de leur dire quoi faire, mais de leur dire bah, ça c'est votre faune sauvage. Il y a des systèmes aujourd'hui qui vous permettraient d'en bénéficier si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, on peut vous soutenir là-dedans, et parce qu'on a la chance dans nos pays à nous d'avoir un système éducatif assez poussé dans la technicité, la réflexion, et donc on apporte un peu des outils aux gens qui n'ont pas eu la chance d'en avoir. Et c'est pas du tout un aller simple, c'est interactif, on s'y retrouve tous, vu qu'eux aussi m'ont appris beaucoup de choses sur la cohabitation. Et je trouve que la France, notamment des pays qui se disent vachement développés là-dessus, au contraire, aurait beaucoup de leçons à apprendre des Namibiens à ce niveau-là. C'est un pays qui a inclus dans sa constitution la protection et l'utilisation durable de ses ressources naturelles. Ok, c'est parce que c'était venu un peu tard en 91. Il y avait déjà des prises de conscience qui n'étaient pas le cas quand les autres pays ont créé leur propre constitution. Mais n'empêche que il y a quand même cette conscience-là, et c'est vrai que c'est quand même très inspirant. Et pour pas parler que des gens qui n'ont pas connu ça, mais des gens qui ont connu la faune sauvage et la nature vierge, c'est tellement inspirant que ça passionne, et quand ça passionne, ça devient passionnant. Des gens passionnés deviennent passionnants, pardon. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent à cette passion, à cette adrénaline que procure la nature. Et ça fait que ça fonctionne, quoi. Ça fait un moteur.
Quand tu me parles des Namibiens, qui sont les Namibiens? Parce qu'il y a ici différentes ethnies, différents peuples qui habitent sur les terres de ce pays.
Alors un Namibien, c'est parfois aussi un ami très bien, d'ailleurs, j'ai trouvé. Il y a une douzaine de langues reconnues dans le pays. Donc ça, c'est et y en a plus en vrai, mais déjà 12 langues, c'est quand même particulier. C'est un pays qui est coincé entre deux déserts, à l'est et à l'ouest, le désert du Namib et l'océan Atlantique à l'ouest, et le désert du Kalahari à l'est. C'est un pays qui est protégé par des fleuves permanents et par des montagnes au nord et au sud. Et c'est un pays qui a été découvert, en fait, alors quand on dit découvert, j'aimais ce mot-là, mais qui a été découvert par l'Occident très tard, de par ses frontières naturelles, ce qui explique que justement le pays a été assez peu aménagé. C'est la densité, la deuxième densité la plus faible du monde après la Mongolie. Et le Namibie, le mot Namib, ça veut dire rien, ce qui permet vraiment de voir au loin sans rien qui obstrue la vue. C'est un pays très sec où il y a assez peu de surplus, c'est vraiment un retour aux sources, à l'authentique, à l'essentiel. Quand on parle des populations namibiennes, on a autant les populations bantoues qui viennent du nord, qui sont là que depuis le XVIe siècle, comme les Héro, les Himba, les Ovambo, mais il y a toute une population du sud, les Khoisan, qu'on appelait les Bushman, les hommes de brousse, qui sont là depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, qui parlent avec une langue à clic, qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs sous ethnies, et c'est un mélange très riche, très différent, très inspirant, et qui donne beaucoup de recul sur les différentes manières dont l'homme peut penser et agir. Les Bushman étaient des chasseurs-cueilleurs, les Bantous étaient des éleveurs, donc c'est vraiment très riche. Il y aurait plusieurs livres à faire là-dessus, mais ça permet d'envisager le monde de différents points de vue assez facilement, de manière accessible.
Et comment ces peuples, tu parles des Himba, tu parles des Bushman ou des Khoisan, arrivent à s'adapter à un monde moderne qui est finalement très loin de leur tradition?
Ouais, ça aussi, c'est un sacré challenge. Ce qui pose problème, c'est qu'ils ont dû le faire en quelques dizaines d'années, alors que nous, ça nous a pris, quand je dis nous, les Occidentaux, ça nous a pris plusieurs centaines d'années pour faire cette évolution-là. Elle n'a pas été imposée, ça a été un développement, entre guillemets, naturel de l'homme. Ici, elle aurait été plus ou moins imposée avec la colonisation. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de faire cette transition aussi vite, de céder un petit peu au miroir, aux alouettes de la consommation, où effectivement avoir un 4x4, avoir un garage, avoir une maison, avoir un compte en banque, pouvoir aller au supermarché, c'est des besoins qui probablement leur ont traversé l'esprit à un moment donné, mais qui n'étaient pas forcément possibles. Donc ils ont appris à être ressents, mais c'est vrai que maintenant qu'ils les ont un peu sous leur nez, ils ont, et c'est tout à fait compréhensible, hein, ils ont tout à fait envie de tendre vers ça. Mais comme la transition s'est faite rapidement, ils n'ont pas forcément les clés, les outils pour l'opérer sereinement de leur propre chef. Et c'est compliqué d'avoir un monde à deux vitesses. C'est compliqué d'avoir des gens qui vivent différemment au sein de la même société, d'un vivre ensemble avec des cultures très différentes qui gèrent les problèmes différemment. Et donc c'est hyper intéressant et c'est un privilège de voir ça aux premières loges. Anthropologiquement, c'est assez fascinant, mais ça se passe des fois dans la douleur, c'est un peu des problèmes. Et c'est vrai que, pour en revenir à ce qu'on disait plus tôt, la gestion de l'environnement peut être une des clés, une des solutions pour trouver l'équilibre entre les deux, justement. Continuer à vivre dehors, à profiter de la nature, de ses ressources naturelles, tout en faisant un pas dans le monde d'aujourd'hui et de demain, qui est un monde capitaliste et financier, où ils peuvent valoriser leur savoir-faire et leur gestion pour en vivre mieux, sans pour autant forcément tout de suite aller en ville, trouver un travail pour pouvoir aller faire ses courses au supermarché.
Est-ce qu'ils sont encore propriétaires de leurs terres? Comment ça se passe? Quel est le lien entre les Bushman ou les Khoisan et le gouvernement?
Alors, bonne question. C'est assez complexe. Ça dépend des endroits, ça dépend des ethnies. Il y a eu des parcs qui ont été faits où l'homme a été exclu, y compris les peuples indigènes. Du coup, il y a eu derrière une politique de compensation par une redistribution des terres, mais qui ne fonctionne pas très bien parce qu'ils ne sont pas habitués à être propriétaires des choses. Il y a toute une grande zone du pays qui sont en zone communale. C'est ça, moi, que je trouve aussi qui me plaît énormément, où la propriété privée n'existe pas. Du moins, la propriété privée des terres. Les terres appartiennent certes au gouvernement, mais ils en laissent l'usufruit et le droit aux gens d'y habiter un peu comme ils veulent, sans barrière, sans cadastre, parce que, surtout dans les pays secs, les animaux ont besoin d'une grande liberté de mouvement pour se nourrir. Et en fait, l'homme, c'est pareil. Et ça, je trouve ça hyper inspirant d'avoir des endroits où personne ne peut dire « ici, c'est chez moi, ici, c'est chez nous », que ce soit les éléphants ou notre bétail ou nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, on fait partie d'un grand tout et séparer les choses, ça ne nous rend pas forcément service à la fin, même si ça règle quelques problèmes dans l'immédiat. Et ces zones communales, elles ont été reconverties pour certaines d'entre elles en ce qu'on appelle les conservancies, qui sont les conservatoires communautaires, où justement les locaux, les communautés locales, prennent l'usufruit et la responsabilité et ils s'approprient leurs ressources naturelles à condition qu'ils les gèrent de manière durable. Ça passe par le tourisme de vue, le tourisme de chasse, la récolte de plantes, et ils vivent de leur environnement sans en être propriétaires, mais juste en louant leurs ressources, en les vendant, et ça encourage toute une gestion durable, et c'est juste tellement inspirant, quoi.
Félix, qu'est-ce qui fait que donc le tourisme ici en Namibie qui se développe énormément, qu'est-ce qui fait que les Occidentaux sont attirés par ces modes de vie des Himba ou des Khoisan? Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement de l'occidental pour ces peuples premiers, peuples racines?
Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs, certains plus bienveillants que d'autres, ou d'autres plus malveillants. Je pense qu'il y a une curiosité, je pense qu'il y a un besoin de retrouver ce qu'on a perdu, je pense qu'il y a un besoin assez égoïste de ramener aussi des expériences ou des photos particulières. Mais je pense qu'il y a ce besoin de retrouver ce qu'on a perdu, et c'est assez fascinant pour nous occidentaux, où on n'est pas forcément plus heureux d'ailleurs que les autres, hein, et où il y a des taux de prise de médicaments, d'antidépresseurs, de suicides même plus élevés qu'ailleurs, de retrouver une certaine authenticité et un certain lien avec l'environnement, parce que ça nous fait du bien à l'âme d'expérimenter des échanges avec ces gens-là et d'expérimenter des expériences en milieu naturel. Souvent, quand je pars avec des voyageurs, les premiers jours, ils sont vraiment dans la consommation, dans le planning, dans qu'est-ce qu'on voit à 14h, qu'est-ce qu'on fait à 16h. Ils ont du mal à se poser et à juste regarder, profiter, échanger. Et au fur et à mesure du voyage, leur perception change complètement. Déjà, ils s'intéressent beaucoup à ces histoires de gestion de l'environnement, parce que c'est des questions qu'on se pose en France où on a beaucoup de problèmes à les régler. Et même si au début, dans la préparation du voyage en amont, avant qu'ils viennent ici, ils veulent absolument passer qu'une nuit à chaque endroit pour voir le maximum de choses, à la fin, ils aimeraient rester 3-4 jours au même endroit et puis revenir l'année prochaine à un autre endroit, parce qu'on perd vraiment cette faculté de... On n'a plus le temps, quoi. Et quand on est forcé un peu de se poser, ça fait mal au début, mais après c'est tellement bénéfique que ça nous rend bien, et les gens sont souvent tristes de partir et de reprendre un rythme, et pour eux ça devient une bulle, un peu une évasion. Mais si on veut s'évader, ça veut dire qu'on n'est pas forcément très bien.
Dans le tourisme, il y a souvent une forme très intrusive, une forme de voyeurisme, et ici on découvre le concept des living museums, que je trouve assez intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de cette forme de tourisme et ce qu'est un living museum?
Ouais, j'adore. C'est un super sujet, parce que moi le premier, en arrivant ici, dans ce qu'on appelle living museum, sont les musées vivants ou alors les villages de démonstration. On s'est rendu compte qu'effectivement, avec le tourisme, pas forcément de masse, mais le tourisme rapide, le tourisme de consommation plutôt, comme je l'appelle, il fallait visiter un village, prendre des photos et puis reprendre la route une heure après. Et en fait, on avait un impact assez négatif dans le village. On emmenait forcément des choses dont les gens n'avaient pas forcément besoin, même si forcément ça les dérangeait pas. Que ce soit des bouteilles en plastique, des stylos, des cahiers, mais aussi des sucreries pour lier avec les enfants, des ballons de foot, tout ça. C'est part d'une bonne intention à la base. Mais en fait, ça dérangeait de manière négative le village en cassant les codes, en se rendant compte que les enfants pouvaient gagner plus d'argent ou plus de nourriture en n'allant pas à l'école, en créant une nouvelle économie qui cassait l'économie traditionnelle. Et ces visites de villages sauvages, cet impact négatif-là, on avait l'impression que c'était authentique, du coup, de faire visiter des vrais villages, mais il y avait un impact négatif, et l'expérience du visiteur n'était pas forcément bonne, mis à part la photo qu'ils allaient ramener. Et les Namibiens ont identifié ce problème, et on dit, puisque vous êtes intéressés par notre culture, et que nous, ben, on l'aime bien et on aimerait bien la valoriser, on va créer des villages où les villageois qui y habitent sont actionnaires des retombées financières et du village, de l'activité touristique. Mais c'est un village qui va être monté, fait pour recevoir des touristes. On va prendre le temps de vous expliquer notre culture. Ça ne va pas déranger le rythme du village. Ils vivent au village. Ce sont des gens de cette même culture-là. Ils ne vont pas se changer le soir et le matin. Ils y dorment. Mais ils sont rémunérés par rapport aux visites qui s'y passent. Et ça protège les autres villages des intrusions et tous les effets négatifs que je viens de décrire. Donc moi, quand je suis arrivé avec ma manière de voyager, évidemment, je me dis, mais ça, c'est artificiel, c'est pas le vrai truc. Mais en fait, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont que quelques heures, voire quelques jours, c'est en fait du gagnant-gagnant, parce que les habitants en vivent correctement, sans impact négatif. Et ils prennent le temps de montrer aux voyageurs leur rythme de vie. Le côté un peu curiosité malsaine ou voyeur de prendre des photos dans leur rythme quotidien est complètement enlevé, vu qu'ils sont là pour ça. Donc ils sont là pour faire les photos qu'ils souhaitaient faire, pour poser, pour montrer comment est-ce qu'ils font, par exemple, pour les Himba, leur pommade d'ocre avec le beurre de vache et les matites et la pierre spéciale qu'ils mouent. Et l'expérience du voyageur était meilleure, était plus profonde, avait plus de temps, et l'expérience pour les visiter était aussi plus bénéfique. Donc c'est vrai que quelles que soient les cultures en Namibie, que ce soit les Khoi San ou les Himba, il y a ces villages de démonstration et auxquels j'encourage les gens pour venir. Pour ceux qui veulent d'autres villages, eh ben, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps et sortir d'une relation mercantile. Ça demande de la confiance, ça demande du temps, ça demande de l'échange, et c'est pas fait pour la plupart des touristes.
Merci Félix.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.